pour ce rendez-vous du mois d'avril de notre 11e année avec un sujet lequel n'est pas une question mais une assertion, une affirmation, le style Sellum. Une affirmation, une assertion qui appelle d'ailleurs qui ne va pas de soi, qui appelle tout un, je dirais, toute une enquête sur l'idée même de style. Peut-être une déconstruction, voire quel concept nous allons mobiliser au cours de notre débat. Mais déjà, première approche, cette, bien entendu, cette affirmation, cette assertion est très très proche du fameux mot de Buffon. Et comment ne pas recontextualiser notre sujet ? Alors effectivement, et c'est d'ailleurs un grand classique de la littérature et de la littérature afférente au style, c'est bien sûr le discours sur le style. En fait, véritablement, le discours de réception à l'Académie française de Buffon en 1753, mais devenu si célèbre, il a d'ailleurs fait les belles pages du temps où les collégiens et lycéens étudiaient le Lagarde et Michard, hein, donc dans le volume du XVIIIe siècle, il est devenu le discours sur le style. Alors, ce discours sur le style, très souvent cité, moins lu, comme tous les textes de référence, trop de références, on oublie de les lire, et c'est dommage. Le discours sur le style, il y a une phrase, j'aimerais vous la dire avant de revenir sur le style, c'est l'homme. Le style, nous dit Buffon, n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Ça, je pense que ça peut éclairer notre réflexion de ce soir. Je reprends, le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Vous apprécierez d'ailleurs une phrase bien frappée avec la négation très caractéristique du style classique, hein, le fameux « ne que » qu'étudia autrefois brillamment Roland Barthes, et qui est toujours un effet d'atténuation, de distance, un peu comme si les choses allaient de soi. Hein. Le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Soi-même, là, c'est déjà une belle leçon de ce que l'on peut appeler le style. Et un peu plus loin, Buffon nous dit, au fond, tout écrit, parce que effectivement, la notion de style commence par une notion appliquée à la chose écrite, à la chose littéraire, première remarque, même si bien entendu la notion de style peut être étendue aux œuvres artistiques en général, bien entendu dégager le style d'un tableau, le style d'une œuvre musicale, le style d'une sculpture, et ce qu'on appellera la stylistique, je vais y revenir, parce que je pense qu'il faut vite conceptualiser et peut-être même l'étendre d'ailleurs à l'homme, comme le suggère ce propos célèbre, ce propos fameux de Buffon. Et Buffon nous dit finalement un texte, il dit pas texte bien entendu, terme très contemporain, le texte, qui vient d'ailleurs du latin tissu, l'étymologie est très enseignante. Bien entendu, on ne parle pas au XVIIIe siècle de texte. Il y a différents écrits, nous dit-il, et au fond, qui soulignent soit la nouveauté d'une découverte, soit la quantité de connaissances, soit la singularité d'un fond. Eh bien, nous dit Buffon, on peut avoir un écrit qui se distingue par de nombreuses découvertes dont il fait part à ses lecteurs, par une quantité de connaissances qu'il lui soumet, etc. Mais s'il n'y a pas de style, eh bien, rien ne restera. Si bien que pour Buffon, le style a affaire à ce qui dure, à ce qui fait trace, et, disons-le d'un mot directement calqué du latin, à ce qui fait monument. Bien entendu, il a en l'esprit la fameuse ode d'Horace. Je construis un monument plus durable que le bronze, nous dit Horace. Bien entendu, un monument de mots. Comment les mots peuvent-ils passer l'épreuve, l'obstacle du temps? Peuvent-ils faire monument? Et Bossuet ne craint pas de parler d'immortalité. Au fond, le style me permet de m'immortaliser. Et ne pas oublier que l'Académie française, copiée dont le terme nous vient des académies, l'Académie de Platon, mais en fait surtout les académies florentines, l'académie florentine via, bien entendu, Platon. Et le but de l'académie, hein, c'est une décision esthétique et politique chez Richelieu, peut-être un jour d'ailleurs on réfléchira sur le lien entre le politique et l'esthétique, que l'académie puisse, au fond, par la langue et par le rayonnement d'auteurs qui atteignent à l'immortalité, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les immortels, qu'on a le symbole aussi de la couleur verte, hein, ce qui jamais ne vieillit, ce qui jamais ne se flétrit, eh bien, de pouvoir justement conférer une durée d'être un acte de fondation. Et Buffon reçut à l'Académie française, et un peu plus loin, que nous dit-il, ces choses ne sont rien hors de l'homme, c'est-à-dire qu'au fond, tout ce que je peux dire, le style est, mais, et là il y a une question, mais le style est l'homme. Non pas le propre de l'homme, dans le « et l'homme » on entend le propre, mais le style et l'homme, que nous avons condensé d'ailleurs avec un infléchissement de sens, le style c'est l'homme. Et le style et l'homme, Buffon ne l'entend pas dans un sens psychologique, le style serait le reflet d'un caractère, mais il l'entend ce qui permet à l'homme de mettre sa marque, quelque chose d'impérissable, et ne pas oublier d'ailleurs que le style, étymologiquement, c'est le stylet, ce qui permet de couper, de faire une césure, et peut-être on retrouve ce qui distingue. D'ailleurs, sans se piquer l'étymologie, écrire vient de scribere, mais il est plus intéressant que scribere vient soi-même du sanskrit, qui est d'un mot qui veut dire la césure, la coupure. De même que le graphème grec vient d'apparaître d'une racine qui veut dire couper, blessé. Donc, ce qui serait de l'ordre de l'écrit, style écrit, serait de l'ordre de ce qui coupe. Hein? Écrire, c'est peut-être couper, se couper d'eux. Alors là, bien entendu, on voit déjà qu'on a une piste de réflexion. Qu'en est-il de cette distinction, hein? J'insiste volontairement sur séparer le préfixe. Distinction. Mais ne restons pas autour du Buffon et d'une certaine idée du style, qui rentrait bien entendu dans la catégorie des belles lettres, elle-même bousculée avec l'invention de ce qu'on appellera la littérature, pour aller plus précisément au style lui-même. Alors le style relève d'une science que l'on appelle la stylistique. Et la stylistique a été, alors là aussi au départ par rapport à la chose écrite, par rapport à cet agencement des mots et des phrases qui doivent produire un effet de sens. Alors on pourrait dire que la première stylistique, c'est la poétique d'Aristote et plus précisément la rhétorique d'Aristote, bien entendu. On trouve une stylistique chez Platon, ce sera l'introduction d'ailleurs de voir une autre piste, la réflexion entre le style et l'éthique, puisque bien entendu le style est une question pleinement d'éthique. Et là, comment ne pas faire un détour par le traité du sublime de Longin, qui est tout autant un traité d'éthique qu'un traité de stylistique. Mais il me semble, pour une première piste de réflexion, on ne peut pas faire l'économie de la stylistique au sens moderne, laquelle a été pensée par un éminent, je dirais, philologue allemand. L'Allemagne a excellé dans la philologie, dans la stylistique. Ne pas oublier que Nietzsche, au départ, est professeur de philologie, hein, et lui-même grand stylicien, hein, il faut d'ailleurs voir. Et il s'agit peut-être, vous le connaissez, de Léo Spitzer. En tout cas, quand on a fait des études, quelques études de lettres, il est difficile de ne pas lire Spitzer, parce que c'est véritablement celui qui a conceptualisé la stylistique. Il a conceptualisé la stylistique. C'était un homme qui connaissait le grec et le latin comme sa langue maternelle, mais aussi les langues romanes. Preuve en est, il était capable d'analyser des textes aussi bien de littérature médiévale que Racine. Or, on y a écrit un texte fabuleux sur Racine. Or, on sait très bien que Racine est tellement spécifique à la langue française qu'il est très difficile d'être justement sensible aux subtilités de Racine. Or, Spitzer, bon, il y avait eu un autre allemand, Vossler, mais Spitzer, véritablement, le fameux texte sur l'effet de sourdine chez Racine est devenu un classique dans les études raciniennes pour la compréhension de Racine. Alors, que nous dit Spitzer? Bien entendu, on va... Alors, Léo Spitzer, il est à la fin. Alors, Spitzer, S-P-T-Z-E-R. Si vous êtes intéressé, il y a ces... un grand texte, étude sur la stylistique chez Tel Gallimard. Il a énormément écrit, mais là, je dirais, c'est un peu ses grands textes. Spitzer est né en Allemagne à la fin du 19e siècle, très précisément dans les années 80 du 19e. Il est mort à la fin de la première moitié, me semble-t-il, du 20e siècle. Léo Spitzer. Et comment Spitzer définit le style? Et là, on va voir qu'effectivement, c'est une question très essentielle pour la philosophie même. Spitzer, objectivement, définit le style comme ce qui est à la fois distingue, c'est-à-dire appelle quelque chose que l'on reconnaît. On sait très bien que, et ça c'est un exercice, ouais, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est un exercice auquel j'avais été soumis avec mes camarades quand j'avais eu la chance de pouvoir entrer en classe préparatoire. Je me souviens que le professeur de lettres nous avait donné comme premier exercice, j'ai toujours trouvé le plus bel exercice que l'on ait jamais donné, je regrette d'ailleurs que ces exercices ne soient pas dans les concours, mais enfin passons, différents textes sans le nom des auteurs, sans aucune indication de provenance du texte, le texte même, et comme seule consigne, un, de pouvoir caractériser, alors on allait du plus large au plus étroit, de caractériser sa période, son siècle, ah ben c'est remarquable, son siècle, ensuite d'essayer de voir un mouvement littéraire, et enfin, l'auteur, et si possible, s'il vous reste du temps, de commencer l'analyse stylistique des textes. Parce que, bien entendu, voilà. Alors, bien entendu, mon prof, qui ensuite nous parlera d'ailleurs de lire, et assez rapidement, Spitzer, voulait vérifier. Or, ça suppose quoi? Le style, ça suppose voir, bien entendu, mais l'oreille. Si bien contre-notion pour notre débat de ce soir, la dimension musicale de tout style. Et là, on avance de plus en plus dans le philosophique, car Nietzsche, dans Ecce Homo, ce livre extraordinaire, à peine un livre, où il récapitule l'histoire de ses propres écrits, et dans l'un des chapitres « Pourquoi j'écris de si bons livres », nous dit Nietzsche, il y a une définition lapidaire du style, laconique, mais extrêmement incisive, extrêmement musicale, frappée, rythmée, j'irais presque dire pour Nietzsche de danser. Le style, c'est communiquer par des signes. Autrement dit, c'est communiquer des états intérieurs de tension. Ce qui donc, c'est un tempo, nous dit-il, et avec cette ironie propre à Nietzsche, j'ai... Le style est par définition la science du versatile. Moi, dit-il, parce que Nietzsche joue avec bien entendu le jeu, hein, il ne faut pas prendre ce texte comme on lit parfois, comme le texte d'une sorte de personne prise par son ego, c'est absurde. Il y a tout à fait un jeu avec lui-même et ses différents masques. Et, nous dit-il, moi j'ai plusieurs états intérieurs, le style est par définition versatile, j'ai donc plusieurs styles, et de dire, il n'y a pas de style en soi, il n'y a pas de bon soi, non déplaise à Boileau, une pique sur Boileau. Le style, c'est au fond, et là on rentre en pleine ontologie, le style introduit à une non-essentialité. Voilà ce qu'est Nietzsche. Là, nous sommes peut-être dans un vertige moderne. Le style nous dirait qu'il n'y a pas d'essence. Alors, Spitzer, Nietzsche. Comment Spitzer, qui avait bien entendu Nietzsche, mais qui a sa propre définition, définit la stylistique? Définit le style, donc, c'est reconnaissable. Pareil d'un compositeur. Hein, quand on exerce un peu son oreille, on va reconnaître Wagner, bien sûr, et peut-être quelle page dans Wagner, Beethoven, de Schubert, de Schumann, ou pour la musique contemporaine, si on a un attrait, effectivement, l'école de Vienne, c'est pas Messiaen, ou c'est pas Penderecki, Stravinsky se reconnaît. Alors voilà, Stravinsky, quelqu'un qui a joué de tous les styles, de tous les styles. Parce qu'est-ce que le style, c'est une identité? Ou est-ce que le style, comme le dit Nietzsche, est une versatilité, une capacité d'avoir plusieurs rôles, plusieurs masses? Moi, en musique, parce que je crois qu'il ne faut pas se limiter qu'à la littérature, en musique, il y a un exemple même, c'est Stravinsky. Stravinsky, c'est quand même le centenaire du Sacre du Printemps, œuvre que certaines personnes ont encore des difficultés à entendre, hein. Un siècle après, c'est le Sacre. Mais c'est également l'Apollon Musagète qui est le modèle même de la musique dite classique, voire de la musique dite française. Voilà, avec un clin d'œil à Couperin. Voilà. Oui, mais je veux dire que par là, l'époque, c'est que Stravinsky est capable d'une diversification de styles tout à fait étonnante, vertigineuse. Mais Stravinsky, c'est également la, les œuvres de la fin qui sont des œuvres dodécaphoniques composées à Venise, comme par exemple Treni. Treni, on pourrait penser que c'est Schoenberg dans la grande écriture de Schoenberg. Donc effectivement, rien que l'exemple de Stravinsky. Et pourtant, si on exerce l'oreille, on va retrouver la touche de Stravinsky. C'est pour ça que Stravinsky me semble un exemple extrêmement intéressant, puisqu'il va le jouer avec une parfaite maîtrise de différents styles, et pourtant, quelque chose revient qui fait que j'écoute le Sacre, j'écoute l'Apollon Musagène, j'écoute la Symphonie des Psaumes, ou Treni, ou ce que vous voulez, ou Oedipe Roi, et néanmoins, j'entends Stravinsky. Donc, le style, ça, ce qui permet de reconnaître. Mais peut-être qu'il faut l'étendre à toute personne, bien entendu, et pas seulement aux œuvres, je suis parti de l'œuvre. Mais ce n'est pas suffisant, nous dit Spitzer, si ça permet le reconnaissance, c'est que le style peut se définir comme un écart. Le style serait l'écart. Ne pas oublier que Spitzer partait d'une formation de philologue et de linguistique. Or, la linguistique étudie la langue dans le fonctionnement de la langue. Mais Spitzer veut nous dire, si on veut rendre compte de la spécificité d'un auteur, on ne peut pas rester que dans la linguistique. Par conséquent, le style marque un écart. Marque un écart, ou encore, et Sartre d'ailleurs, je ne sais pas s'il avait lu Spitzer, mais dans Question de méthode, Sartre parle d'un différentiel pour marquer ce qui distingue effectivement les auteurs. Mais on peut élargir à toute œuvre, quelque part. Qu'est-ce qui distingue? Donc il y aurait l'idée d'écart, l'idée d'un écart, l'idée d'un différentiel et l'idée d'une reconnaissance. Mais, nous dit Spitzer, qu'est-ce qui va me permettre de pointer ce qui fait différence et de soutenir le style? Et alors il cite un propos d'humour du grand spécialiste Abby Warburg, hein, grand spécialiste, voilà, qui écrivait « Dieu ne se révèle que dans les détails ». Voilà, écrivait Abby Warburg. Et il reprend ce propos de Warburg pour dire « Le style n'est que dans le détail ». D'où la pratique qu'il va mener de l'explication de texte, mais on peut expliquer une partition, on peut expliquer un tableau qui va consister à voir justement quelle est cette caractéristique que je reconnais, qu'est-ce que précisément je reconnais quand je reconnais un style, quand je peux l'identifier. Donc il y a le travail sur le détail et Spitzer ira à une structure en soulignant bien pour éviter toute méprise que le style n'est pas une affaire seulement de fond ou de forme, car chacun qui sait lire ou entendre ou regarder sait que le fond est totalement indissociable de la forme et qu'il n'y a pas plus ridicule que, et pas plus nul comme devoir qui consisterait à dire première partie la forme, deuxième partie le fond. C'est non seulement comme on appelle une dissertation à un tiroir, c'est surtout une dissertation qui n'a aucun sens. Le fond est indissociable de la forme. Mais la question est, là, on arrive au philosophique, et c'est pour ça que peut-être que le style est une manière même moderne de philosophie, est-ce que je peux atteindre un contenu, un énoncé, ce que l'on appelle le fond, mais le fond peut être un tréfond, sans passer par ce qui le fait advenir par un style? Car effectivement, c'est une chose de dire que le fond est indissociable de la forme, et c'est pour ça qu'on ne peut pas résumer un texte littéraire. On peut résumer éventuellement, c'est un bon exercice, un éditorial. On peut résumer, genre, est-ce qu'on peut résumer un passage de Racine? Est-ce qu'on peut résumer un poème, exercice totalement imbécile, au sens de faible? Est-ce qu'on peut résumer Baudelaire? Ce que Baudelaire énonce dans un poème, il ne l'énonce que par sa forme. Et donc, le style pose bien la question de l'essence. Et c'est pour ça que c'est une question, je dirais, moderne, même si les anciens se la sont déjà posée, mais non pas sur le mode de l'essence, sur le mode d'éthique. Donc, question. Réfléchir sur le style, c'est l'homme, c'est réfléchir sur la notion d'essence, d'essentialité, voire pourquoi pas de l'être, voire Nietzsche. Est-ce qu'on ne peut pas l'étendre à l'homme même? Ce qui nous permet alors, deuxième grande piste de réflexion parfois c'est un sujet qui ressort, non pas comme un serpent de mer, mais un peu difficile à traiter, c'est ce que l'on appelle la question du dandisme. Mais si on essaye de la reposer à nouveau frais, et par exemple de faire allusion au grand texte qui a introduit la notion, c'est Barbé d'Aurevilly dans La vie de Brummel, est-ce que La vie de Brummel de Barbé d'Aurevilly n'est pas en train de dire on peut, qu'est-ce que c'est qu'inventer sa vie par rapport au style, avec seulement l'idée que le dandy, ce n'est pas une certaine posture, c'est peut-être poser qu'est-ce que mon identité ? Est-ce que j'en ai même quelque part une ? D'ailleurs, Barbé d'Aurevilly, qui soit dit en passant est un grand écrivain, et pas autre chose qu'un écrivain dit réactionnaire, autant des épithètes toutes faites, qui n'apprennent strictement rien, pose qu'au fond, Brummel, peut-être, est en train d'inventer est-ce qu'il y a un être ou seulement une manière d'être ? Ce qui est en soi est une question vertigineuse qui peut-être permet de relier à Nietzsche et à tout un aspect, au vrai sens moderne de la philosophie, qui interroge justement la question de l'essence. Qu'on retrouve d'ailleurs dans la réflexion sur la littérature chez Sartre, si on relie avec cette approche, justement par exemple, toutes les situations. Il y a toute une réflexion sur l'écriture chez Sartre. Il faudrait se demander pourquoi, qui est une réflexion, parce que ça remet en question l'idée d'essence. Et c'est la raison pour laquelle il retravaille qu'est-ce que l'écriture. Ne pas oublier que dans La Nausée, il y a un moment le narrateur dit « puis qu'est-ce que je fais ?» qui raconte l'histoire d'un personnage d'ailleurs qui n'a pas grand intérêt, et à un moment il dit « mais finalement qu'est-ce que je fais comme phrase ?» Parce que si je continue comme ça le chapitre, je vais dire telle ou telle chose de mon personnage, mais si je le fais autrement, eh bien c'est pas le même. C'est très drôle ce passage de La Nausée. Et c'est en même temps très philosophique. Ce narrateur qui d'ailleurs terminera jamais la vie de ce personnage, Roquentin, parce que finalement il découvre qu'il a une nausée. Ben, une nausée, c'est qu'il n'y a pas de fond. Alors, le style, bien entendu, est une notion, autre piste de réflexion, par rapport à l'éthique. On peut effectivement avoir un débat sur l'éthique, et c'est la conception ancienne, parce que la littérature est une notion moderne. Peut-être que la littérature, c'est le moment d'ailleurs où on sort du genre, de la division des genres. C'est peut-être une notion d'ailleurs en rivalité quelque part avec le théologique. Il y aurait là une piste de réflexion pourquoi la littérature émerge à la charnière du 18e et du 19e comme concept. Donc, pendant très longtemps, on connaît les belles lettres ou les beaux-arts avec une distinction sur les genres, genre noble ou plus ou moins noble, qui suppose des styles afférents ou des modes. Ne pas oublier que dans la peinture classique, par exemple, si on veut être sensible à la peinture d'un Poussin, il y a des modes. Poussin a peint ses toiles selon différents modes. Il y a un mode sévère, un mode viril, un mode, je dirais, mâle, avec un qui va être le mode dorien, mais il y a des modes qui vont être plus légers, comme le mode ionique, par exemple. Bien, il y avait des modes que l'on retrouve dans la musique. Si certains d'entre vous s'intéressent, par exemple, à la musique dite baroque, je mets des guillemets parce qu'on met un peu tout sous ce terme, eh bien, prenez par exemple une tragédie lyrique de Lully, ou même encore, si on prend du Rameau, ou les œuvres pour clavecin, eh bien, on va avoir des modes. Et les modes vont exprimer différents états, différents ethos, manière d'être, manière d'agir, on pourrait presque dire différentes situations. Et c'est pas du tout quelque chose de purement rhétorique. C'est que l'être est pensé comme différents genres d'être. Il y a différentes manières de dire l'être. Et on voit bien que la question du style est une question en fait totalement ontologique et philosophique. Et pas seulement une question de beau langage. Et si on remonte sur la chose écrite, le style, quand on prend les auteurs latins, ça vient de l'art de la persuasion, de l'art de l'orateur, Quintilien, Cicéron, De Oratore. Or, les latins distinguaient soit le stylatique, qui est un style, je dirais, très, très sec, qui expose seulement les faits, ou un style qui va être plus ample, on ira parfois jusqu'à l'asianisme, qui est un style qui cherche beaucoup plus à émouvoir, à produire un effet sur les juges ou sur l'assemblée des citoyens. Tiens, la notion d'effet. Est-ce que le style ne suppose pas la technique, la production du discours, la production d'un effet ? Il y a pour moi un texte qui est fabuleux, c'est le texte d'Edgar Poe sur Genèse d'un poème, sur son fameux corbeau. Edgar Poe a écrit ce poème qui a été un best-seller. C'est bizarre aujourd'hui de penser qu'un poème puisse être un best-seller. Et le fameux corbeau, les vers morts, plus jamais, hein, on entend à minuit. Gainsbourg reprendra d'ailleurs ce poème, il en fera, il le retravaillera. Bien, plus jamais, plus jamais. Bon, et bien, c'est un succès énorme. Il y a même des femmes qui s'évanouissent en entendant, en lisant le poème. Et Edgar Poe va refroidir tout le monde. Il écrit un texte, Jeunesse du poème. C'est très décevant, alors avec beaucoup d'humour là aussi. J'ai cherché à produire des effets. Il explique comment il est parvenu à obtenir tel effet sur ses lecteurs. Avec une grande part d'ironie, parce que ça poserait la question d'inspiration. Néanmoins, on voit bien que réfléchir sur le style, c'est réfléchir sur la production d'un effet, et peut-être, pour le dire comme à Michel Foucault, sur la production de soi-même. Sur la production de soi. Donc, style éthique. Style éthique, style ontologique. Enfin, dernière approche, dernière piste. Si le style est peut-être une affaire de technique, avec tout ce que ça suppose, voire de vertigineux, alors est-ce qu'il ne peut pas être produit de manière mécanique? Et là, ne faut-il pas re-questionner philosophiquement, ou même relire pour le plaisir du texte, cet essai, mais est-ce un essai fabuleux de Baudelaire, les paradis artificiels? Parce que les paradis artificiels ne sont pas une simple réflexion sur la drogue, avec beaucoup d'humour, puisque Baudelaire nous dit « Oh là là, il ne faut surtout pas toucher à l'opium », alors qu'effectivement, il est le premier à consommer. Donc là, il y a déjà toute une posture morale assez drôle chez Baudelaire. Mais peut-être que l'essentiel du texte, c'est de se poser la question « Est-ce que je peux obtenir par des substances, n'oubliez pas stupéfiant, assez resté la brigade des stupes, hein, quelque chose qui me stupéfie au départ, hein, substance stupéfiante, eh bien, la création. Alors, Baudelaire nous dit non, rien ne peut remplacer la volonté. Il cite d'ailleurs comme argument d'autorité Balzac. Balzac a produit la comédie humaine, il n'a jamais, comme on dirait aujourd'hui, il n'a jamais rien sniffé, il n'a jamais rien appris. Bien, enfin Baudelaire le dit bien mieux que ça. Mais il pose néanmoins la question, est-ce qu'on ne peut pas obtenir, si je pose la question qu'il y a une sorte de vacuité ontologique, si je pose qu'il y a une technique pour produire justement le style, est-ce que je ne peux pas prolonger les arts rhétoriques, et là on remonte à Aristote, on remonte au latin, par décupler ma perception, décupler mes sensations, par des substances. Et le texte de Baudelaire ouvre une porte, il ouvre un abîme. C'est pas pour rien que Baudelaire est un poète de la Bible. Et ça sera repris au XXe siècle par des auteurs comme Henri Michaud, dont tout l'œuvre d'Henri Michaud, qui était également écrit des dessins, voilà, est une exploration de la création sous substance. On pourrait aussi baser avec Thomas de Quincey, bien entendu, le mangeur de pierre. Ou un auteur également qui a réfléchi sur l'expérience des substances, c'est Junger, Ernst Junger, dans Approche de la drogue, texte qui a été d'ailleurs extrêmement lu autour de 68, le texte de Junger. Hein. Junger, on connaît Orage d'acier, sa réflexion effectivement sur la guerre comme une sorte d'ailleurs déjà presque d'hallucination, hein. Mais on oublie aussi le texte de Junger sur l'usage, je dirais, des stupéfiants, qui est dans la tradition de Michaud, mais tout ça remontant au paradis artificiel de Baudelaire. Tout ça pour dire, pour notre réflexion, le style c'est l'homme. Est-ce qu'il faut entendre que l'homme, c'est une manière de s'exprimer, de faire une coupure dans le langage, de se distinguer, qui serait peut-être aussi ma liberté? Mais alors, est-ce que ça ne touche pas à la question de l'essence, de l'être, puisque le fond est indissociable de la forme, avec la question moderne du dandysme, voire la question éthique du style, parce que bien entendu, nous l'avons peut-être oublié, le style produit des effets, et ça les anciens le savaient, et en ce sens, ils sont toujours actuels. Et puis, au fond, et ne sommes-nous pas dans une période virtuelle, dans une période où les technologies, peut-être d'ailleurs dans une brise, dans une démesure, mais il faut s'interroger, ne sont pas là pour presque produire quelque part un autre homme. Et effectivement, la réflexion amorcée sur l'automate créateur, l'automate psychique, à partir des paradis artificiels de Baudelaire, texte véritablement qui introduit une problématique moderne, Qu'en est-il exactement? Bref, il se pourrait, et laissons un peu notre cher Buffon, que le style soit une question, l'air de rien, essentielle, et une question qui plus est actuelle. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et ne m'être pas trop enthousiasmé sur cette question. Bien, l'enthousiasme étant aussi une affaire de style. Voilà, complètement, style enthousiaste ou pas. Donc, décidément, on n'en sort pas, mais c'est lancé. Alors,